La Voix des mots, une émission de Litera 05. Bonjour auditeurs et auditrices. Aujourd'hui donc c'est moi, Anne-Marie, de l'association Litera, qui vous propose de découvrir un nouveau livre, L'enfant dans le taxi de Sylvain Prudhomme, qui a été édité aux éditions de Minuit en 2023. Sylvain Prudhomme, un écrivain que Litera apprécie beaucoup, on l'a déjà reçu deux fois, je crois. C'est un écrivain du Sud, il vit à Arles, il est né à la Seyne-sur-Mer en 1979. Et il a écrit déjà de nombreux livres qui ont été beaucoup appréciés. Il a eu le prix Femina, d'ailleurs, avec un de ses livres. La Vedibaï, qui se passe en Algérie, Les Grands, qui se passe en Afrique, par les routes de France, les orages qui sont une série de nouvelles. Et puis, donc, il vient de faire paraître L'enfant dans le taxi, un livre assez un titre assez énigmatique. Alors, le début du livre, mai 1945, au lendemain de l'armistice. Nous sommes dans un village allemand, au bord du lac de Constance. Une famille allemande, le père, la mère, une jeune fille, loge un soldat français depuis 2 semaines. Le livre s'ouvre sur une scène d'amour entre le français et la jeune allemande. Une scène d'amour que Sylvain Prudhomme appelle une scène primitive. Scène du désir plus fort que tous les interdits, son scandale, ses effets pendant des décennies ensuite. Je vous lis page 16. Je ne sais pas pourquoi ces deux amants-là me bouleversent. Je sais seulement que cela fut. Que ces deux bouches, un jour de printemps, s'embrassèrent. Que ces deux corps se prirent. Je sais que Maloussie et cette femme, ses mères, mot dont je ne peux dire exactement quelle valeur il faut lui donner ici, mais qui, dans tous les cas, convient. Puisque s'aimer, cela peut être 1000 choses. Même coucher simplement dans une grange, sans autre transport ni tendresse que la fulgurance d'un désir éphémère, l'éclair d'un plaisir suraigu, dont tout indique que Maloussie et cette femme gardèrent longtemps le souvenir. Je sais que de ce plaisir naquit un enfant qui vit toujours là-bas près du lac, et que ce livre est comme un livre vers lui. Un livre vers lui, c'est justement de quoi est fait le livre. Au chapitre 2, on revient au présent. Un après-midi de juillet, dans le sud de la France, une famille revient du cimetière où on vient d'enterrer le patriarche de la famille, Maloussie. Maloussie, celui que, tout à l'heure, faisait l'amour avec une jeune Allemande dans une grange. Donc, des décennies ont passé, bien sûr, depuis l'Allemagne. Maloussie est revenu en France. Il s'est marié. Il a eu 5 enfants, de nombreux petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Toute la famille est réunie autour d'un goûter pour les obsèques du patriarche, autour de sa veuve. Simon, qui est donc le narrateur du livre, est un des petits-enfants de Maloussie. À un moment, Franz, un Allemand, qui est en fait son oncle, puisqu'il est marié à une de ses tantes, Franz donc, son oncle par alliance, vient vers lui et lui révèle qu'au moment des obsèques, il a failli prendre la parole devant tout le monde quand la personne des pompes funèbres a dit « Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour ajouter un dernier mot ?» Franz a donc failli prendre la parole. Mais pour dire quoi ? J'ai failli parler de M. Ça, je vous lis à partir de la page 29. Tu as déjà entendu parler de M, bien sûr. Moi, pris de court, déballonné, m'efforçant de comprendre, me demandant quel M, pensant à toute allure quel M, de qui parle-t-il, qu'est-il donc en train de me raconter ? M'étonnant de ce prénom étrange, impossible à rattacher à rien dans mes souvenirs. M, parfait prénom américain, avais-je d'abord pensé, faute d'en savoir l'orthographe. M, tu es au courant, n'est-ce pas ? On t'a déjà parlé de M, m'avait demandé Franz. À quoi je n'avais pas même osé répondre non. Me contentant de me taire et d'écouter, devinant que tout irait très vite à présent, que chaque mot qu'aurait le temps de dire Franz se graverait à jamais dans mes pensées. L'important était que Franz parle, qu'il dise tout ce qu'il pourrait dire avant que cette conversation soit de toute façon interrompue, comme il était inévitable qu'elle le soit au milieu du salon bondé d'invités. M, le fils allemand de Maloussie. Tu es au courant, n'est-ce pas, que ton grand-père a eu un fils en Allemagne à l'époque où il était soldat d'occupation au bord du lac de Constance. Un fils avec une Allemande qu'il a connue pendant quelques semaines. Tu le savais, n'est-ce pas? Moi, abasourdi, incapable de rien faire d'autre qu'enregistrer le prénom M, les mots « fils allemand de Maloussie », les mots « une Allemande » qu'il a connue pendant quelques semaines. Chaque nouvelle phrase de Franz, comme une déflagration sourde que j'avais sentie se propager dans tout mon être. Tu es au courant, n'est-ce pas, que ta mère et Julie et Catherine et Nicolas ont depuis toujours un frère en Allemagne, un frère à peine plus âgé que ta mère qui vit toujours là-bas près du lac. Je n'avais rien pu faire que secouer doucement la tête et j'avais vu que Franz n'était pas plus étonné que ça, que mon ignorance ne faisait que confirmer son sentiment quant à la parfaite absence de M de nos vies à tous. J'étais triste que personne n'évoque cet enfant, que tout le monde fasse comme s'il n'existait pas. Alors quand le type des pompes funèbres a posé cette question, j'ai pensé que peut-être il fallait dire un mot pour lui, avait continué Franz. J'ai failli prendre sur moi de demander à tout le monde de se rappeler son existence. Cela dit d'un ton calme, comme s'il revivait la scène, se revoyait devant le caveau, à l'instant où le cercueil de Maloussie était descendu à bout de corde dans le trou. Cela finalement sans que ni lui ni personne ne dise rien, sans que la journée prenne au dernier moment le tournant qu'il avait un moment songé à lui donner, sans que rien n'arrive, simplement la continuation de la même cérémonie, sans accroc, sans surprise. J'ai failli demander à tout le monde d'avoir une pensée pour ce fils de Maloussie dont tout le monde passait systématiquement l'existence sous silence, dont beaucoup de gens ici ne savent même pas que Maloussie l'a eu. J'ai failli expliquer que M aurait aimé être là, avait continué Franz, qu'il avait même songé à venir, que M avait songé à venir parfaitement. Le prénom de M articulé bien ou bien net dans l'air du cimetière après toutes ces années de silence, claironné au-dessus de toutes ces têtes, rien que pour le plaisir de voir leurs billes ahuries, avait souri Franz. Mais à présent son sourire était triste et j'entendais les regrets dans sa voix, les reproches qu'il se faisait à lui-même d'avoir finalement gardé le silence, cédé comme tout le monde depuis des décennies à la facilité de se taire. J'ai failli dire que même si les aléas de la vie n'avaient pas permis que M soit là, il ne tenait qu'à nous de l'associer à ce moment, d'avoir ne serait-ce qu'une pensée de quelques secondes pour lui, le temps qu'il dise lui aussi au revoir à son père. Ce mot que Franz avait manifestement prévu de dire devant tout le monde et qu'il disait maintenant devant moi pour que je l'entende bien, qu'il s'enfonce bien en moi, son père. À partir de ce moment-là, Simon va devenir une sorte de détective qui va scruter le passé de sa famille pour comprendre ce qui s'est passé. Il va découvrir quelques bribes du passé, il va trouver quelques réponses aux questions qui se posent sur M, mais il juge que ces réponses sont insuffisantes. Alors Simon en arrive à la conclusion qu'il lui faut partir, qu'il faut aller en Allemagne, essayer de rencontrer M au bord du lac de Constance, puisque M, né 7 décennies plus tôt, vit toujours là-bas. Et pourtant, partir est pour lui difficile, dans les circonstances que l'on vient de donner. Ce voyage, d'ailleurs, lui a été interdit. Par qui? Par la veuve de Maloussie, Ima. Chapitre 4. Je t'interdis d'aller le voir, tu m'entends? La rincée était venue de tout en haut. Dima elle-même, d'ordinaire affectueuse, enjouée. ce midi-là coupante comme une lame. J'avais eu le malheur de venir lui demander ce qu'elle savait de toute cette histoire, le malheur de lui demander l'autorisation d'aller rendre visite à M. Je te l'interdis, Simon, est-ce que c'est clair ? Ima, assise en face de moi à la grande table du salon, obligée par ma faute à moi de s'égosiller à 95 ans passés. Voici étranglée de colère qu'une quinte de toux l'avait secouée et qu'elle avait dû se taire plusieurs secondes, manquant s'étouffer, sa petite silhouette tassée par l'âge à deux doigts de suffoquer. Moi, remplie de honte, effrayée à l'idée qu'elle puisse se trouver mal, faire là maintenant devant moi une attaque par ma faute. Je ne veux plus qu'on parle de tout ça, Simon, c'est du passé. Est-ce que c'est clair ? Je ne veux plus qu'on salisse la vie de mon mari, tu m'entends ? Moi, accablée de l'avoir dans cet état, n'osant plus moufter, je veux qu'on laisse mon mari en paix, qu'on lui fiche la paix, tout simplement, la paix. Est-ce qu'il n'a pas le droit, lui aussi, de dormir en paix comme n'importe qui ? Venue pour avoir avec elle ce que j'avais imaginé être un moment doux, rempli d'émotions, de souvenirs, je n'avais pas pu articuler un mot, n'avais eu d'autre choix que de rester sur ma chaise à attendre qu'elle ait fini de vider sa colère. Je l'avais écoutée sans broncher, acquiesçant, m'efforçant de faire le dos rond, parvenant tant bien que mal à encaisser l'orage jusqu'au moment où elle avait proféré cette menace plus solennelle que toutes les précédentes. « Si tu t'obstines, Simon, je te bannis, c'est compris ?» Comme si elle avait longtemps cherché l'avertissement le plus impressionnant qu'elle puisse m'adresser. « Je te bannis, tu m'entends ?» Phrase qui m'avait d'abord laissé aussi impressionnée que perplexe. « Je te bannis, menace dont jamais je n'avais imaginé que quiconque puisse un jour se servir à mon endroit. Soufflé par quel réflexe archaïque, quelle colère ancestrale venue du fond des âges ?»« Me bannir, d'où me bannir ? De quoi avais-je eu envie de demander ?»« Je te bannis, comme si ce n'était plus elle qui parlait, mais une sorte de voix immémoriale, la voix du clan. » La voix de la famille, la voix de notre famille, a supposé que quelque chose de tel ait jamais existé, avec ce que cela signifiait d'unité, de cohésion, d'entente, tant bien que mal maintenue, malgré les heurts. Eh bien justement, nous allons écouter une chanson sur la famille. Je vous laisse écouter.
Mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence, on n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester. Très loin du star system, tu restes tard si t'aimes. Si jamais je devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte, c'est qui il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. C'est avec eux que j'avance, de la sérénité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup. Et à l'inverse, il n'y a rien qui ne me fasse plus de peine qu'imaginer leur visage au moment où ils ont appris que mes 20 ans seraient cruels, que mon avenir s'annonçait terne. Le drame, ça se partage, mais ça n'apaise pas l'esprit. Ils m'ont transmis tout ce que j'aimerais transmettre à mon tour. C'est grâce à eux, si je suis en paix, que je pars pas en vrille. Leur humanité sans trompette, leur bienveillance sans détour. Ce que je leur dois, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
Évidemment, quand t'es maman, ton cœur explose et pour toujours. On te confie le rôle ultime, celui qui te change viscéralement. Tu savais pas que c'était possible de générer autant d'amour. Je trouve pas de mots assez forts, c'est tellement tellement.
Et évidemment, quand t'es daron, toutes les cartes sont redistribuées. Ils sont dans ma tête, dans mon ventre, dans mon sang chaque seconde. Je n'ai plus qu'eux comme certitude, il va falloir m'habituer. J'ai découvert les liens visibles et les plus solides du monde.
Les enfants, c'est des galères qu'on pouvait même pas concevoir.
Ils nous rendent complètement ouf, mais en un sourire, on vacille.
T'as qu'une envie, c'est qu'ils s'endorment, et dès qu'ils dorment, tu veux les voir.
Eh ouais, on est devenus ceux qu'on chambrait. Je crois qu'on a le sens de la famille. Et le sens de la famille, c'est aussi le sens de l'amitié. Je peux te présenter des frères et sœurs qui n'ont pas le même sang. Frères d'espoir, sœurs de cœur, frères de galère ou de quartier. Faire des projets d'adultes dans des cerveaux d'adolescents.
La famille, c'est aussi ceux qui sont devenus essentiels. Ceux qui te connaissent, te révèlent, te soutiennent et te protègent. Ceux qui te parlent la bouche fermée, parce que le cœur s'en mêle. Si tu veux signer avec moi, faut signer avec tout le cortège.
Repose-toi bien, ma chérie. À bientôt, Charles.
D'abord,
on va à la séance de 19h30 et après on mange.
Ma soeur, t'es où?
Papa, on peut manger devant la télé ce soir?
Le sens de la famille, une chanson de Grand Corps Malade et Leïla Bekhti. Une chanson qui montre l'importance de la famille et trouve donc un écho dans ce livre. C'est pour ça que j'ai voulu vous la faire écouter. Alors revenons au livre. Donc, il s'agit de L'enfant dans le taxi de Sylvain Prudhomme. Si Sylvain devient tellement obsédé par le désir de découvrir le personnage de M, celui donc qui serait son oncle, c'est d'abord parce qu'il veut peut-être un petit peu réparer une injustice qui a été commise, puisque cet enfant n'a pas été accepté dans la famille. Donc, en quelque sorte, oui, faire justice. Mais il y a une deuxième raison, c'est que Simon est en train de vivre un épisode douloureux de son existence. Je vous lis page 39. Ce soir-là, je suis rentrée tard. J'ai roulé sans cesser de penser à M, au destin de M, à la présence dans ma vie désormais de ce M, distant d'à peine 10 heures de route. Je me suis garée devant la petite maison, juste sous la fenêtre de la chambre de Tom, mon fils aîné. J'ai machinalement levé les yeux dans l'espoir d'y voir encore de la lumière. Me suis d'avance réjouie des découvertes que j'allais pouvoir raconter. Et puis j'ai vu les volets fermés, le rez-de-chaussée éteint. Je me suis rappelé que la maison était déserte. C'était en principe ma semaine, mais d'un commun accord, A était reparti avec les garçons après l'office en fin de matinée, sans attendre l'inhumation au cimetière que nous avions préféré leur épargner. « Je te les garde ce soir », avait proposé A pour me rendre service. « C'est facile, je suis chez Florence. Ils verront leurs copains, ça leur changera les idées, tout le monde sera ravi. » Maintenant, je sentais le vide que leur absence creusait en moi. La tristesse que ni elle ni eux ne soient là. La pensée de leur chambre vide là-haut, de leur lit vide. L'absence de leur corps chaud contre lesquels me blottir. De leurs joues chaudes à embrasser dans le noir pour leur souhaiter bonne nuit. Nous avions décidé de nous séparer un mois plus tôt. Depuis, chaque semaine, nous alternions. L'un de nous deux restait à la maison avec les enfants, l'autre se débrouillait comme il pouvait, aller à Paris, où le travail nous appelait souvent l'un et l'autre, ou chez des amis, ou en profiter pour s'acquitter d'obligations qu'il avait ailleurs. Ce n'était qu'une solution provisoire, mais pour l'instant, cela fonctionnait. Les choses s'en trouvaient adoucies. Les conséquences de la rupture en partie différées. Je me suis vue dans la voiture garée depuis 10 minutes devant chez nous, au milieu de la rue déserte à 11 heures du soir. Je me suis représenté ma silhouette assise à l'intérieur de l'habitacle de la voiture au milieu de la nuit noire. La minuscule trouée de lueur que devait faire l'écran de mon téléphone dans l'obscurité. Je me suis sentie seule. Seul à un point, merde. Je suis descendue de voiture, j'ai marché jusqu'à la maison. La porte s'est ouverte sur le couloir encombré de trottinettes. J'ai allumé la lumière. Regardé l'ampoule projeter ses watts absurdes contre le plafond et les murs. J'ai repensé aux mots de Franz, le fils allemand de Maloussi, ce fils qui continue de vivre là-bas, au bord du lac de Constance. Et c'est la solitude dans laquelle Simon se retrouve, il l'a fait sentir quand il dit « je me suis senti si seul », c'est cette solitude qui va le rapprocher de M. M, donc, qui a été rejeté, un enfant à qui on a refusé l'amour, on l'a déjà dit, auquel il avait droit. Simon va vouloir le retrouver et retrouver en lui un petit peu sa propre souffrance, sa propre solitude. Cette solitude qui lui pèse tellement qu'il décide de rendre visite à ses parents. Ça rappelle la chanson de Grand Corps Malade. Le besoin de voir ses parents quand on a un problème. Page 80. Je suis descendue de voiture dans la nuit déjà tombée. J'ai vu les deux silhouettes surgir de la maison comme si elles me guettaient, marcher à ma rencontre dans l'obscurité avant que j'aie fini de me garer. Le père et la mère m'ont serré plus longtemps que d'habitude dans leurs bras, d'une étreinte un peu fébrile, inquiète. « Allez, viens vite, le repas est prêt. » Lasagne à l'aubergine de ta mère et tarte tatin de ton père au dessert. Les lumières de la maison éclairaient doucement la nuit en contrebas. Tarte tatin de mon père, la classe, j'ai ri. La première de ma vie, a dit le père. Peut-être pas tout à fait caramélisée, a dit la mère, mais on va voir. Nous sommes rentrés tous les trois nous réchauffer dans le salon, avons bu le vin d'orange de la mère. Manger les olives mises à tremper dans la saumure par le père. Un peu molle cette année, j'ai objecté. Pas tout à fait aussi craquante et verte que d'habitude, je sais, a répondu le père. C'est pas ma faute, ça vient des arbres du voisin. Elles sont moins belles cette année, qu'est-ce que j'y peux ? J'ai senti qu'il scrutait mon visage, examinait chaque moue joyeuse ou triste que je faisais, évaluait ma forme. J'avais pensé qu'il parlerait de M. Mais bien sûr, c'était ma vie à moi qui les préoccupait. « Raconte comment vont les enfants, a dit la mère. Raconte comment va A. Je l'ai eu au téléphone, j'étais contente de lui parler. Raconte comment tu vas, toi. » J'ai un peu résisté au début et puis je me suis mis à parler. À raconter inépuisablement, avec une franchise jamais osée avant. C'est à peine si j'ai réussi à m'arrêter 2 secondes pour savourer les lasagnes. Enfin, mon récit s'est un peu tari, j'ai fini de vider mon sac. Bon, mais moi, j'étais surtout venue pour parler de M, j'ai souri. Voilà, vous avez compris, ou peut-être pas, que ce livre est en grande partie autobiographique, je vous le dis, que Simon, c'est en grande partie Sylvain Prudhomme, et que pour l'essentiel, c'est de sa famille dont il s'agit. Maloussi, c'est son grand-père, d'ailleurs, il en avait déjà parlé dans son premier livre, là, au Ovidie Bailly. Ah, c'est sa femme, ses 2 enfants, etc. Je veux ajouter que Sylvain élargit cette histoire de famille à la grande histoire. L'histoire des enfants nés d'une mère allemande et d'un père français pendant la guerre. Des gamins non voulus, maudits, à peine nés que privés de père. C'est un petit peu ce qui se passe dans un pays chaque fois qu'il y a la guerre. Je me rappelle, on a beaucoup parlé des enfants laissés par les pères américains au Vietnam. On en a beaucoup parlé aussi. Chaque fois qu'il y a une guerre, il y a des victimes. Alors, je vous lis le passage. Donc, j'ai songé aux mots qui servaient communément à nommer les enfants abandonnés. Des bâtards. J'ai écouté le son glorieux que faisaient ces 2 syllabes. J'ai pensé que naître bâtard, c'était savoir d'avance que les autres ne vous feraient pas de cadeaux. C'était apprendre d'emblée le grand partage entre ceux qui osaient nommer les choses et ceux qui préféraient les taire. Naître bâtard, c'était gagner du temps, mûrir à vitesse accélérée, apprendre à composer dès les premiers pas avec le boitement inévitable de la vie. C'était grandir plus courageux, plus honnête avec soi-même et avec la vie, tout simplement plus vrai. N'était-ce pas ce que l'on disait des chiens bâtards ? Qu'ils étaient beaucoup plus intelligents que tous les chiens de race, que pour eux la débrouille était question de survie. Je me suis demandé ce qui expliquait que je sois du côté de M, ce qui pouvait bien faire que depuis le début je me sente son complice. Je me suis vue dans ma solitude nouvelle, face au vertige de n'avoir plus personne à qui m'adosser, attirée par cet esseulé majuscule, ce délaissé qui avait connu l'abandon, le vrai. Je me suis demandé quelle vérité j'espérais qu'il me dise. J'ai songé à mon métier d'écrire. J'ai pensé que, comme M, je faisais partie des êtres qui avaient un problème avec le monde, n'arrivaient pas à s'en contenter tel qu'il est, devaient, pour se le rendre habitable, le triturer, le rêver autre. J'ai pensé que j'étais le frère de M dans l'ordre des condamnés au remodelage à la fiction, son frère dans l'ordre des intranquilles, des insatiables, des boiteux. Voilà, j'aime bien terminer sur cette phrase de Sylvain Prudhomme quand il parle du métier d'écrivain. Les écrivains qui ont un problème avec le monde, qui n'arrivent pas à s'en contenter tel quel, qui doivent, pour se le rendre habitable, le triturer, le rêver autre, n'est-ce pas ce que font tous les écrivains ? Voilà, c'était donc « L'enfant dans le taxi » de Sylvain Prudhomme, édité aux éditions de Minuit en 2023. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.